lorsqu'on est jeune, on traîne un peu par-ci et par-là. Et sur une simple cour de récréation, un éducateur de Don Bosco s'est approché de moi en disant « Et cet été, qu'est-ce que tu fais ?» Quand on est lycéen et qu'on est en seconde, on ne sait pas trop ce qu'on fait l'été. En tout cas, on a envie de s'amuser. Et alors, il m'a proposé de l'accompagner sur des camps d'animation de jeunes. Et j'ai rencontré des enfants donc qui étaient placés par différentes assistantes sociales. Donc, ils nous confiaient des enfants. Et au contact de ces enfants, j'ai découvert que apporter de la joie à travers le chant, le jeu, l'écoute sympathique et fraternelle, la régulation aussi du groupe au niveau des tensions qu'ils peuvent avoir entre eux, eh bien ça a été pour moi une leçon d'humanité. Hein, alors qu'auparavant, je voyais un peu juste le monde au-devant de ma petite porte et de mon cercle d'amis.
Quand même, il y a un pas entre justement une action qu'on pourrait qualifier de sociale à devenir père. Qu'est-ce qui a tracé votre chemin, on va dire ?
J'ai donc eu la possibilité, durant cette scolarité, d'être aussi amené à accompagner des jeunes internes de 6e et de 3e et de seconde, hein, donc des jeunes que je rencontrais aussi au lycée. Et j'ai découvert à ce moment-là une pédagogie un peu spéciale, justement, qui consistait à chaque fois ne pas se laisser décourager, mettre en avant des situations qui font d'abord regarder les choses très, très positives. Et ça, je me suis dit, ça vient d'où ? Et j'ai demandé à ces personnes de m'expliquer. Ils m'ont dit, ça vient de Don Bosco. Nous sommes des fils de Don Bosco. Et au départ, je ne pensais pas être religieux, mais je voulais effectivement continuer à approfondir cette pédagogie, fruit d'une spiritualité. C'est-à-dire, ce regard positif ne va pas de soi. Il vient effectivement d'une manière de regarder l'homme avec toujours une très grande espérance pour lui.
Et quand vous avez commencé à réfléchir sur Don Bosco et sur ses écrits, sur ses actions surtout, qu'est-ce que ça a apporté de plus, on va dire ?
J'ai découvert chez Jean Bosco une véritable patience et un goût très vrai pour ce qui est positif chez le jeune, avec un enthousiasme pour toujours lui proposer une issue de secours, une sortie. Et puis surtout, j'ai découvert que Don Bosco s'occupait des jeunes les plus en difficulté. Alors j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les jeunes de la rue, hein, comme on dit, et c'est là effectivement que j'ai constaté jusqu'où l'homme pouvait être blessé. Et quand il est blessé, la première chose qu'il nourrit en lui-même, c'est une certaine rage envers la société, envers les gens et envers lui-même. Et là, l'approche de Don Bosco est extrêmement forte, parce qu'elle permet de voir d'abord l'autre en tant que blessé, et non pas l'autre en tant qu'auteur d'un délit ou auteur de quelque chose qui fait du mal à lui ou à la société. Et ce regard positif, eh bien, il s'enracine avec dans cette expérience que l'on fait de découvrir que c'est le Christ même qui nous regarde comme ça. Les forces humaines ne suffisent pas. On peut être mu par la peur quand on va auprès des jeunes de la rue, mais on peut aussi être mu par une sorte de compassion, de regard très humain, des fois sans parole, à la proximité de l'autre. Et c'est surtout dans la persévérance de cette présence très quotidienne que l'on devient crédible. Tout ça, c'est du Don Bosco, quoi.
Vous avez eu l'occasion d'aller vers les jeunes de la rue. Est-ce que vous pouvez revenir sur une rencontre forte qui a permis justement à un de ces jeunes de relever peut-être la tête grâce à votre compassion ?
Quand on fait des rencontres comme ça, c'est pas d'abord le cerveau qui travaille, j'allais dire, c'est la vérité du corps et du cœur. Et cette rencontre qui me reste forcément en mémoire, parce qu'elle a été pour moi un tournant dans ma vie, c'est lorsque je faisais des achats dans une grande surface avec un jeune qui avait 23 ans, qui était un peu plus âgé que moi à l'époque, et nous travaillions dans un service éducatif. Et on faisait donc des achats pour une dizaine de jeunes pour pouvoir vivre toute la semaine. En gros, on avait deux caddies très bien chargés de nourriture et d'effets personnels. Et ce jeune était un ancien sorti de prison, très marqué par la vie, et qui portait ça à la fois sur son corps et dans son langage. Et arrivé au moment de passer la caisse, je me constate qu'il manque quelques objets. Je dis, je vais aller acheter ça. Et je lui passe le portefeuille en disant, tiens, tu payes. Et lorsque je reviens au niveau de la caisse, je retrouve mon Pascal de l'autre côté, complètement blême. Des faits, je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit mais tu m'as laissé tout l'argent pour payer. J'ai dit oui, j'aurais pu me tirer avec. Et j'ai dit tu l'as pas fait. Il m'a dit non. Et je crois pour conclure, c'est lorsqu'on est soi-même naturellement porté à voir les choses ou vivre les choses de manière positive, eh bien on fait un déplacement réel et radical chez l'autre qui le laisse perplexe dans un premier temps avant d'entamer une relation éducative plus approfondie. Hein. Ça, c'était une première expérience de rencontre auprès des jeunes de la rue où j'ai pris conscience, entre autres, que j'étais un privilégié de la société. Je suis issu d'une famille où on a appris, entre autres, à prier. Et je découvrais que je priais, par exemple, Notre Père avec une publicité déconcertante. Parce que moi, je disais « Donnez-nous notre pain quotidien », je n'avais aucune angoisse qui me tenaillait. Et de rencontrer ces jeunes-là, je me suis dit « La prière du Notre Père, c'est quelque chose qui peut devenir un cri chez eux ». Et c'est du coup a jailli cette question de pourquoi pas donner toute ma vie.
Vous êtes donc devenu un père salésien, vous êtes aussi devenu formateur de jeunes qui souhaitaient, comme vous l'avez fait personnellement, s'engager dans la communauté de Don Bosco. Et puis il y a aussi une autre spécificité qui vous est propre, c'est que vous êtes père et clown.
J'étais très timide et toujours dans le champ éducatif salésien. Un jour, un professeur a dit « Écoute, Daniel, tu es dépourvu de tous tes moyens dès qu'on passe au tableau ou quoi. Est-ce que tu acceptes de faire du théâtre ?» J'ai pas osé dire non. Alors, faire du théâtre, c'est un grand mot. Pour moi, au début, c'était simplement faire acte de présence sur les planches. Et j'ai constaté que le regard positif des spectateurs et des autres m'a donné envie de continuer. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 17-18 ans, je me suis retrouvé dans une troupe de théâtre à faire des farces du 15e et 16e siècle. Et à l'occasion d'une de ces présentations, avec un de mes frères, quelqu'un nous a remarqué en disant « Mais pourquoi vous ne feriez pas des sketchs de clowns ?» Là aussi, j'étais totalement soufflé, j'ai dit « mais j'y ai jamais pensé ». Et voilà que un de ces adultes animateurs me montre ce que c'est que le clown. Et c'est donc quelque chose que j'ai, entre guillemets, bricolé. Je me suis bricolé une tenue de clown, j'ai commencé à me déguiser d'une manière tout à fait aléatoire, à me maquiller un peu comme je pensais être en tant que clown. Et en entrant dans la vie religieuse, j'ai brûlé tout ça. J'ai mis tout ça de côté en disant « la vie religieuse est une chose sérieuse ». Et c'est pendant ce noviciat chez les Salésiens de Moscou que j'ai découvert un petit livret intitulé « Les illusionnistes ». Je suis allé voir le maître des novices, je lui en ai parlé, je lui ai dit « qu'est-ce que ça fait ici ?» Il m'a dit « mais tout à fait, Jean Bosco est aussi saint patron des illusionnistes, des saltimbanques ». Et il m'a dit « pourquoi tu as slashé là-dessus ?» Et je lui ai dit « ben voilà, moi j'étais clown avant de venir vous voir ». Il m'a dit « mais ça fait rien, tu sais que chez nous tu peux être clown puisque dans la congrégation il y a des ventriloques, il y a des magiciens ». Je voyais là la trace de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis mis à travailler, entre guillemets, professionnellement la question du clown. Et j'ai découvert que le métier de clown, c'est celui qui sait habiter la souffrance de l'autre. Et dans cette souffrance, arriver à trouver le jeu qui permet de rire, d'appréhender d'une manière tout à fait joyeuse ce que d'autres trouveraient comme difficile et lourd à porter.